Il est 20h à Paris, 15h à Caracas, et c'est l'heure de votre émission d'actualité internationale et de géopolitique.
À l'oreille du monde.
Géopolitique et actualité internationale.
Un samedi par mois.
À 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans À l'oreille du monde, je suis Léo LB et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de décryptage de l'actualité internationale. Ce soir, direction le Venezuela. Vous en avez entendu parler récemment, Donald Trump a déployé près des côtes vénézuéliennes des navires de guerre, des sous-marins, des avions militaires ainsi qu'un porte-avions. D'ailleurs, aujourd'hui même, à 14h, le 29 novembre, Donald Trump a franchi un nouveau palier en tweetant qu'il fallait, je cite, « considérer les espace aérien au-dessus du Venezuela comme entièrement fermé. Alors pourquoi toutes ces menaces, ces tensions? À quoi joue Donald Trump? Ce sont les questions, ces questions-là qui nous intéressent ce soir, tout comme les questions autour du régime autoritaire de Nicolas Maduro. Pour y répondre, je reçois tout à l'heure Violetti Bracho, spécialiste du Venezuela. Puis, en fin d'émission, on écoutera Florent et son pas de côté, décalé, comme son nom l'indique. Avant ça, je vous fais la carte d'identité du pays, évidemment. Merci d'écouter À l'oreille du monde. Le Venezuela, c'est parti.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Partons donc au Venezuela. Vous le savez, c'est un pays d'Amérique du Sud. Il est bordé à l'ouest par la Colombie, au sud par le Brésil et à l'est par le Guyana. Il fait face à la mer des Caraïbes, disposant d'un littoral de 2800 km. Le relief naturel du Venezuela est très varié. Des chaînes de montagnes dans le nord-ouest, des plaines tropicales au centre et puis une partie de l'immense forêt amazonienne au sud. Tout cela donne au Venezuela une superficie de 912 000 km. Parlons démographie. On compte environ 28,5 millions d'habitants, dont 5 millions pour le district de Caracas, la capitale du Venezuela. Un autre chiffre intéressant, c'est le taux d'urbanisation. 89% de la population vit en ville. Cette population parle l'espagnol castillan, langue officielle et héritage de l'Espagne colonisatrice. Mais près de 40 langues amérindiennes sont aussi parlées, dont plusieurs sont en voie d'extinction. Et puis, 2% de la population sont indigènes, répartis en de nombreux groupes ethniques. Parlons maintenant économie. La monnaie officielle du Venezuela, c'est le bolivar. Tout le modèle économique du Venezuela est basé sur la vente de ses ressources naturelles. Il exporte du pétrole, du gaz naturel et des minéraux comme l'or, le bauxite, le fer et le diamant. Mais à partir de 2012 débute une grave crise économique due à différents facteurs, notamment macroéconomiques, politiques ou géopolitiques, puisque le Venezuela sera soumis à des sanctions internationales. Le pays fait aussi face à une crise humanitaire et migratoire. D'après des chiffres de Solidarité internationale, plus de 7,7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2015 et 70% de la population ne bénéficie pas d'un accès régulier à l'eau potable. Avant de passer à l'interview, quelques rappels historiques pour tout comprendre. Le Venezuela est proclamé indépendant de l'Empire espagnol en 1811, mais sera définitivement libéré du joug d'une puissance le 24 juin 1821, après une victoire militaire remportée par Simon Bolivar, qui, vous l'aurez compris, donnera son nom à la monnaie vénézuélienne et aussi au régime du pays, la République bolivarienne du Venezuela. Plus tard, en 1999, Hugo Chavez arrive au pouvoir par une élection. Il implantera des réformes sociales de gauche et sera élu trois fois, réélu. À sa mort en 2013, Nicolas Maduro lui succède. Il va verrouiller petit à petit le pouvoir et plonge ainsi le pays sous un régime autoritaire. Nicolas Maduro est encore au pouvoir aujourd'hui et il est au centre de plein de problèmes du Venezuela, certes, mais aussi de mon interview avec Violetti Bracho. C'est tout de suite dans À l'oreille du monde.
À l'oreille du monde.
Géopolitique, un samedi par mois à 20h.
Sur Radio Campus Paris.
Yoleti Brachaud, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon et spécialiste du Venezuela. Vous êtes dans le studio d'À l'oreille du monde aujourd'hui pour nous aider à comprendre la situation brûlante du Venezuela, à la fois intérieure et extérieure. On va commencer par cette dernière, parce que depuis août 2025, les États-Unis ont déployé dans les eaux internationales, près des côtes vénézuéliennes, l'un de leurs porte-avions le plus grand du monde, ainsi que 14 autres navires de guerre, un sous-marin nucléaire et environ 14 000 soldats dans les Caraïbes. Bref, une vraie démonstration de force officiellement pour lutter contre le narcoterrorisme. Nicolas Maduro, lui, dénonce une menace visant à le renverser. Est-ce que, Yoleti Brachaud, vous pouvez nous éclairer, si on le sait, sur la vraie raison de ce déploiement militaire ?
Alors, la vraie raison, justement, je pense qu'il n'y en a pas une, il y en a des raisons multiples. Ce qui est vrai, c'est que depuis l'arrivée de Trump à l'administration états-unienne en début d'année, en fait, les relations avec le Venezuela ont été, au tout début de son mandat, on va dire ambivalentes. En tout cas, il jouait sur deux fronts. D'une part, le gouvernement de Trump a envoyé un chargé, on va dire, de discussion, d'accord, une personne qui s'appelle Richard Grenell, qui du coup est un envoyé pour avoir des échanges et essayer de construire, en fait, voilà, des discussions, des accords avec le gouvernement Maduro. Cet envoyé spécial, il a effectivement réussi à débloquer certaines choses. En fait, il y a eu la libération de certains prisonniers, etc. Et on voyait du coup percevoir là une volonté du gouvernement Trump d'avoir une relation, on va dire, win-win, en fait, gagnant-gagnant avec l'administration Maduro. Très vite après, est arrivé au secrétariat d'État de l'administration Trump une personne qui s'appelle Marco Rubio. Et Marco Rubio, c'est un homme politique plutôt issu de la Floride, qui est lui-même donc fils des migrants cubains aux États-Unis, qui ont quitté donc le Cuba, bon bref, dans le contexte aussi dictatorial qui lui appartient, et mais qui du coup est aussi un ennemi farouche de tout ce qui pourrait avoir eu un lien de près ou de loin avec les gauches en Amérique latine. Attention, le gouvernement Maduro aujourd'hui est en effet un gouvernement autoritaire. Il est difficile en fait de le classifier à gauche étant donné les types de politiques austéritaires et des répressions sociales et syndicales et politiques qu'il met en place. Toutefois, il est héritier d'une histoire d'une certaine gauche vénézuélienne, notamment par le biais de chavisme, donc le gouvernement de gauche Chavez précédent. Et du coup, voilà. Donc, en fait, il est perçu comme étant, depuis longtemps, hein, une menace pour les États-Unis. C'est même l'administration Obama qui avait installé un décret qui déclarait donc le Venezuela comme un danger extraordinaire pour la sécurité nationale. Donc, on se retrouve du coup avec l'administration Trump dans cette diplomatie à deux vitesses. Mais on voit très bien aujourd'hui que la diplomatie de la négociation a du coup aujourd'hui une deuxième place vis-à-vis de plutôt une démonstration de force qui du coup en effet a pour origine ou en tout cas pour justification l'idée qu'il y aurait une organisation narco-terroriste à la tête de l'État vénézuélien qui se serait donnée pour objectif de nuire à la stabilité politique et sociale des États-Unis. Bon, il y a de fait des liens forts entre les personnes au pouvoir, en fait, les structures au pouvoir au Venezuela et des économies illicites multiples, dont l'économie de la drogue. Mais il n'y a pas véritablement un plan qui se construirait depuis le Venezuela pour déstabiliser les États-Unis en tant que tel. Mais disons que cette analyse-là permet effectivement d'avoir une justification pour s'attaquer directement au Venezuela et en particulier du coup aux bateaux qui sortent en fait dans la mer Caraïbe et qui sont accusés de transporter de la drogue. Mais donc cette idée de la lutte contre le narcotrafic cache à peine ou cache assez mal ce qui est assez évidemment volonté de construire un changement de régime au Venezuela.
Et est-ce que ce déploiement militaire, c'est une manière pour les États-Unis de montrer leur croc comme une forme de dissuasion pour obtenir un changement de régime, ou au contraire, est-ce que selon vous, ils se préparent à lancer vraiment une opération armée ?
Alors, les personnes qui travaillent véritablement sur les questions militaires, ce qu'elles nous proposent comme analyse, c'est que il serait assez improbable qu'il y ait une opération militaire à grande échelle sur le territoire vénézuélien Non, pas parce que les États-Unis n'auraient pas les moyens, mais parce qu'il serait difficile en fait, de porter en fait, cette politique par un gouvernement Trump qui a été élu, entre autres aussi, en se présentant comme un gouvernement qui allait se désengager, qui allait désengager les États-Unis des batailles et des guerres à l'étranger, qui est un gouvernement qui s'est présenté plutôt comme un gouvernement de America First. Donc, en fait, on protège à l'intérieur, on évite de s'engager trop à l'extérieur. Par contre, est-ce que... Justement, les connaisseurs de questions militaires disent, c'est qu'il est possible qu'on voit, comme on avait déjà vu, des frappes dans la Caraïbe sur des cibles, cette fois-ci des bateaux. On pourrait avoir des frappes sur des cibles comme les pistes de décollage, atterrissage des avions qui, effectivement, participent en fait au trafic de drogue ou en fait des hangars où il y aurait, des stockages, en fait, ce genre de choses. Par contre, ce qui est important aussi à penser, c'est que peu importe en fait si c'est des frappes dites chirurgicales, comme ils les appellent, ou une attaque générale, le fait est que déjà, ce qu'on appelle les frappes chirurgicales ont des conséquences fortes en fait pour le pays et entre autres, ont des conséquences sur le fait que le gouvernement Maduro, gouvernement autoritaire donc, effectivement sous tension, déploie des formes de répression beaucoup plus importantes à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, prendre en compte.
Et les États-Unis, ce ne serait pas la première fois qu'ils renversent un régime, puisqu'entre 1898 et 1994, ils seraient intervenus à 41 reprises en Amérique latine pour provoquer directement ou indirectement des changements de gouvernement. Si c'est le cas pour le Venezuela, quelle est au fond la motivation? Est-ce que c'est le pétrole, contrôler l'Amérique latine?
Il y a des enjeux de ressources clairs. Effectivement, le Venezuela a une des réserves de pétrole les plus importantes au monde. Et il se trouve être beaucoup plus à proximité des États-Unis que le pétrole qui se trouve au Moyen-Orient. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de ressources. Après, les États-Unis sont aussi, ils sont très actuellement intéressés par la... En fait, ils ont volonté de réduire les parcours migratoires et en fait l'arrivée des migrants latino-américains vers les États-Unis. Et il se trouve que le Venezuela est un pays dont sortent une bonne partie des migrants qui vont de l'Amérique latine vers les États-Unis. Et après, c'est vrai qu'il y a un enjeu plus général d'influence dans la région. En fait, les États-Unis, historiquement, ont une place importante dans la politique et dans l'économie latino-américaine. Or, désormais, c'est aussi la Chine, donc en fait, un autre pays très puissant et qui a son propre impérialisme, on va dire. Donc, disons que c'est une bataille entre deux impérialismes. L'impérialisme états-unien qui a toujours conçu l'Amérique latine comme sa zone d'influence naturelle et une Chine qui, effectivement, est devenue un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la région. Récupérer cette force, cette capacité d'influence est importante. Et de fait, c'est déjà un peu le cas. On voit que récemment, il y a eu des fortes pressions sur le Brésil de la part des États-Unis une fois que l'ancien président Bolsonaro a été mis en prison. On voit aussi que l'administration Trump intervient dans les élections de mi-mandat en Argentine en soutenant Milei. On voit aussi son influence dans les prochaines élections présidentielles au Chili. Oui, il y a un véritable enjeu d'influence qui a forcément des conséquences concrètes, y compris du coup sur l'accès aux ressources.
En tout cas, la pression américaine fonctionne plutôt bien sur Nicolas Maduro, puisqu'il a adressé ces derniers mois des courriers à ses alliés, leur demandant de l'aide. D'après des révélations du Washington Post, il aurait demandé une coopération militaire élargie à la Chine, mais surtout il aurait appelé à l'aide Moscou, demandant des missiles, des radars et des avions modernisés. Et le 26 octobre dernier, on apprend qu'un avion de l'armée de l'air russe a atterri au Venezuela, sans savoir ce qu'il transportait. Il est dit qu'à l'heure actuelle, Moscou reste la principale bouée de sauvetage du Venezuela. Est-ce que, Violetti Bracho, est-ce que c'est vrai? Moscou peut-il aider Caracas?
En fait, la Russie est surtout engagée dans sa propre guerre, en fait, sa guerre d'invasion vis-à-vis de l'Ukraine. Actuellement, il y a des sortes, on va dire, débuts des négociations justement, c'est l'administration Trump qui fait l'intermédiaire entre la Russie et l'Ukraine pour essayer d'arriver à des accords bon, appelons-les accords de paix, même si en fait concrètement on pourrait discuter de ce terme-là. Mmh. Mais bon, mais du coup, il me semble difficile pour la Russie de ouvrir un nouvel lieu, un nouvel espace de confrontation avec les États-Unis de manière forte, en fait, du coup, au Venezuela, alors qu'ils sont dans des pourparlers avec les États-Unis sur ce qui se passe, du coup, avec l'Ukraine. Ce qui est vrai, c'est que par contre, voilà, le fait d'envoyer cet avion montre que oui, il y a une relation toujours importante entre la Russie et le Venezuela, en tout cas entre les gouvernements de ces deux pays, qu'il y a un soutien politique et logistique réel. Mais puisqu'on sait effectivement que les forces militaires russes sont déjà en difficulté dans leur propre guerre impériale vis-à-vis de l'Ukraine, il serait difficile, à mon avis, qu'ils viennent vraiment à la rescousse du gouvernement Maduro concrètement s'il y avait des frappes ou des actions plus fortes de la part des États-Unis.
Avant de continuer cette interview et de parler du régime de Maduro, je vous propose une pause musicale, un petit moment de détente avec le groupe vénézuélien Rawayana, en featuring avec le rappeur Apache. Ensemble, ils signent le titre High en anglais. C'est un hymne à la fête. On se retrouve dans quelques minutes dans À l'oreille du monde. Oh, yes. Yes.
Cuando este flow hace que muevas el esqueleto, mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila, más perro que un Rottweiler. Así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos and make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff y pégate en el trip, como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Guau, no está mal y te lo decía así.
Hey yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo malo y put your hands so high.
Sube el volumen y olvida lo feo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high. Ah, ah, ay. Ah, ah, ay. Wah, ah, ay. Wah, ah, ay. Why?
Yo, yo, sin prisa, con calma, sin yo, sin prejuicios. Con la misma esencia desde el inicio. Haciendo la chamba, haciendo el oficio. Porque la música es nuestro vicio. Quizá te cueste soltar una risa. No caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza. Que para ser feliz no hace falta una visa.
Y pégate en el trip now. Como en el arte vaciada. Prejuicios aquí, no.
Oye la wey, ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Rawayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la party es que van. Ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Rawayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la playa es que van.
Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high. Ha, ha, ha.
Écoutez le titre High du groupe Rawayana. On continue de parler du Venezuela avec Yoleti Brachaud.
À l'oreille du monde,
géopolitique, un samedi par mois à 20h
sur Radio Campus Paris.
Alors je vous propose maintenant de nous intéresser au cœur même du Venezuela, au régime de Nicolas Maduro. Il est président du pays depuis 2013 et a été réélu en juillet 2024 avec des élections visiblement bien truquées. Vous, Yoleti Bracho, vous avez étudié les violences d'État vénézuéliennes, donc vous êtes bien placé pour nous décrire le régime de Nicolas Maduro. Comment la population vit sous ce dictateur ?
Le régime de Nicolas Maduro, c'est un régime autoritaire qui, en effet, en fait, l'autoritarisme, c'est une construction qui s'est fait dans le temps long, et en fait, les gouvernements autoritaires apprennent justement aussi à exercer le pouvoir de manière coercitive, de manière violente. C'est pas tant qu'il a truqué les élections, c'est que les élections telles qu'elles se sont déroulées ont donné un résultat qui lui était défavorable, et donc c'est pas l'élection qui est truquée en elle-même, c'est le résultat annoncé qui est faux, en fait. Et c'est ça qui est particulier, parce que une des choses, puisqu'il se trouve que j'étais au Venezuela justement en juillet 2024 au moment de ces élections, une des choses qui était assez claire sur le moment, c'est qu'on était il y avait une conscience collective de ce qui s'était passé et de ce mensonge qui était
la population est au courant.
Tout à fait, et c'est pas seulement que la population était au courant, c'est que la population s'est mobilisée contre cette annonce de résultat. Et en fait, pendant 2 jours, il y a des mobilisations extrêmement fortes, non pas seulement à Caracas, à la capitale, mais à l'échelle générale du pays. Sauf que c'est ça l'enjeu, en fait, de comment on gouverne les gouvernements autoritaires. C'est qu'à la suite de ces très larges mobilisations populaires, il y a eu aussi une vague de répressive extrêmement violente. Et en 2-3 jours, vous avez à peu près 2500 personnes qui vont en prison. Et aujourd'hui, ça veut dire on est un an bien après, vous avez encore 500 prisonniers politiques, en fait, de la période des mobilisations. Donc, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement Maduro a su, à des moments, contourner, voilà, par exemple, les sanctions économiques. Il a su, à des moments, retisser des liens avec une partie de la population. Mais au fur et à mesure de temps, il s'est surtout consolidé par des pratiques de pouvoir autoritaires, en fait, qui renvoient, voilà, à la restriction des libertés associatives et démocratiques, qui renvoient, en fait, à la répression sociale et politique. Et c'est quelque chose dont les Vénézuéliens sont extrêmement conscients. Ce qui fait que, du coup, aujourd'hui, toute expression dissidente, en fait, elle est assez réduite, parce que c'est dangereux aussi de s'exprimer cette manière-là.
Je voulais justement vous demander comment vit l'opposition au Venezuela. Vous avez en partie répondu. Et par rapport à l'actualité, on sait, cet été, Maria Corina Machado, figure de l'opposition vénézuélienne, a reçu le prix Nobel de la paix en 2025. Elle n'est pas, pour l'instant, en prison. Est-ce que ce prix Nobel ou cette figure peut changer quelque chose ou n'a aucune influence sur le régime ?
En fait, déjà, ce qu'il faut penser, c'est qu'il n'y a pas une opposition au Venezuela, il y a des oppositions plurielles. Et Maria Corina Machado représente ce que moi j'appelle l'opposition traditionnelle. Une opposition qui a eu effectivement de longue date une relation forte avec les États-Unis et qui a été soutenue, y compris dans ses actions les moins démocratiques, puisqu'en fait, c'est aussi une opposition qui a fait un coup d'État contre un gouvernement Chavez qui avait été élu démocratiquement en 2002. Donc en fait, voilà, c'est une opposition qui, actuellement, se trouve dans un lien très étroit avec l'administration Trump, qui a aussi soutenu, voire légitimé, les actions militaires de l'administration Trump sur la Caraïbe. Mais c'est aussi, effectivement, une opposition qui a, l'année des élections, donc en 2024, elle a su mobiliser, rassembler les gens et produire, en fait, voilà, cette mobilisation électorale qui n'était pas gagnée au Venezuela et qui a pu s'exprimer, contre le gouvernement Maduro et contre ce gouvernement, donc ces pratiques de pouvoir autoritaire. Le fait est que le prix Nobel a été assez controversé. Si vous voulez, cette relation avec cette administration Trump de Maria Corina Machado et ce prix Nobel qui va avec ne fait pas l'unanimité entre les Vénézuéliens. Par contre, c'est effectivement un poids d'appui, un poids même de légitimation de ce que le gouvernement Trump fait en termes de politique étrangère vis-à-vis de Venezuela. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les Vénézuéliens et Vénézuéliennes sont d'accord avec cette manière d'amener la discussion, ou cette manière de construire une pression sur le pays pour, ou plutôt sur une manière de construire une pression sur ce gouvernement pour qu'il sorte. Tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, ce gouvernement doit, en fait, quitter parce que il n'est pas légitime. Mais on n'est pas tous d'accord pour dire quelle est la méthode pour le faire.
Bon, voilà, après avoir fait le tour de la situation vénézuélienne, j'aimerais vous demander votre avis sur l'avenir le plus probable du Venezuela dans les mois, les semaines, voire les jours à venir. C'est une question difficile.
En fait, c'est que je pense qu'on est précisément à un moment où il est très difficile de s'avancer dans quelconque perspective. Entre autres parce que, justement, si vous voulez, là où il y a actuellement une mobilisation militaire de l'impérialisme états-unien très forte dans la Caraïbe, vous avez aussi un Donald Trump qui, il y a deux jours, était en train de dire qu'il serait prêt à discuter avec Maduro. Donc, les choses, en fait, sont extrêmement mouvantes et instables en ces moments. Par contre, il y a quelque chose qui est stable. Et c'est une préoccupation qu'à mon avis, il faudrait garder à l'esprit alors qu'on a tendance à l'oublier. Ce qui est stable, c'est que la population vénézuélienne vit sous son gouvernement autoritaire, vit une crise économique qui ne s'arrête pas, vit des pics d'inflation constants qui rendent le quotidien très difficile, vit dans un pays où, en fait, l'accès aux services publics, l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, à l'électricité n'est pas véritablement garanti pour tout le monde. Et que ces inquiétudes-là, les inquiétudes de la population pour vivre en vie digne, ça c'est stable et ça va durer longtemps et à voir par quels moyens on pourra sortir par le haut.
Merci beaucoup Yoleti Bracho d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir aidé surtout à décrypter cette situation. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'université d'Avignon et spécialiste du Venezuela. Et je l'ai cité tout à l'heure, vous avez coécrit un numéro de la revue Cahiers des Amériques Latines qui s'appelle « Rapport ordinaire à la violence d'État au Venezuela ». Merci d'avoir été dans le studio. Et puis nous, on termine cette émission avec le pas de côté de Florent, comme toujours, mais spécialement aujourd'hui, en beauté.
Quel lancement, merci Léo. Mais en effet, pour prendre un peu distance avec ce monde de tension et de laideur, et je ne parle pas seulement de Trump, autorisons-nous un détour par la beauté. Le Venezuela, c'est d'abord des paysages à couper le souffle. Vous avez peut-être déjà vu des images du Salto Angel, la plus haute chute d'eau du monde, près de 1000 mètres. Il y a aussi ces hauts plateaux au sommet plat, les tepuis, qui ont inspiré le monde perdu de Conan Doyle. Ou encore le lac Maracaibo, où la foudre, selon le magazine Géo, frappe en moyenne 28 fois par minute pendant 9 heures, et ce pendant 200 à 300 nuits, selon les sources, 200 à 300 nuits par an. Imaginez le spectacle. Mais les meilleurs représentants de la beauté au Venezuela, ce sont les Vénézuéliens. Et c'est pas un jugement personnel. Le pays détient le record des reines de beauté. 7 Miss Univers, 6 Miss Monde. En 2008 et 2009, le Venezuela a même réalisé l'impensable. Deux couronnes consécutives, un record inscrit au Guinness Book. Derrière ces victoires, on trouve évidemment une industrie nationale. Le concours Miss Venezuela atteint des audiences de 60%, l'équivalent du Super Bowl. Pour des milliers de jeunes femmes issues des quartiers populaires, ces concours sont l'espoir d'une nouvelle vie, un ascenseur social. Et puis, sous les paillettes, il y a la politique. Donald Trump, propriétaire de Miss Univers jusqu'en 2015, on ne le sait pas toujours, avait humilié Alicia Machado, Miss Univers 1996, une Vénézuélienne qu'il surnommait Miss Piggy pour quelques kilos pris après l'événement. 20 ans plus tard, Hillary Clinton ressort l'affaire lors d'un débat présidentiel. La Miss est devenue une arme dans la campagne électorale. Ailleurs dans le monde, c'est la même chose. La politique et la géopolitique ne sont jamais loin. L'édition Miss Univers 2025 en Thaïlande en a donné une nouvelle illustration. Pour la première fois, une Miss Palestine concourait. Nadine Ayoub a défilé dans une robe ornée du dôme du Rocher, un haut lieu de l'islam à Jérusalem. Face à elle, Miss Israël arborait une tenue jaune en hommage aux otages du 7 octobre. La première a atteint le top 30, la seconde dit avoir reçu des menaces de mort. En 2017, c'est un simple selfie entre Miss Irak et Miss Israël qui avait déclenché un vrai scandale. Sarah Aydan voulait simplement envoyer un message de paix. Résultat, elle a dû fuir son pays, sa famille aussi. 2021, en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a retiré son soutien officiel à sa candidate pour le concours organisé en Israël. Un écho troublant à 1976 quand 9 pays avaient boycotté Miss Monde à cause de l'apartheid sud-africain, le pays hôte. Alors oui, on peut sourire devant ces écharpes et ces maillots de bain. Mais derrière le glamour, les concours de beauté sont des scènes où s'affirment les identités nationales, où peuvent se focaliser les tensions géopolitiques. Le Venezuela l'a compris depuis longtemps. Dans un pays en crise, produire des Miss reste une forme de soft power. Cela signifie que le pays peut encore fabriquer du rêve. Un message au monde et à sa propre population.
Merci Florent pour ce pas de côté. Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission. Si la géopolitique continue de vous intéresser, je vous donne rendez-vous sur le site de Radio Campus Paris ou sur vos applications de podcast. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.